la loi des séries, mais la deuxième conférence qui devait être tenue par Madame Nathalie Lelièvre est remplacée par, sur le même thème, par la présence de, des mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire Madame Xavier Santoni, le docteur André Cheras, le docteur Laurence Pesquet qui est venu nous rejoindre et qui est médecin du sport, et Madame Chantal Calatayud.
Oui, alors, sa parole. Oui, juste vous signaler que nous n'apprécions pas du tout ces désistements de dernière minute, surtout quand on nous explique que c'est pour cause de grève de TGV, parce que vous nous faites la gentillesse vous de venir, de vous déplacer. Nous nous sommes débrouillés quand même pour ne pas rester coincés sur des rails, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc nous n'apprécions pas du tout, on tenait quand même à vous le dire. Donc là, c'est pareil. Alors là, c'est vraiment plus que de l'improvisation. Et en ce qui me concerne, je vous remercie de votre compréhension. Voilà, Laurence.
Donc nous avons choisi de vous apporter des éléments de réflexion sur l'euthanasie, d'autant plus qu'il y a donc une proposition de loi qui est en cours de discussion actuellement à l'Assemblée nationale, avec une présentation donc des différents orateurs hier après-midi. Nous sommes donc dans le thème du sujet, dans le vif du débat. Il faut savoir que c'est une loi qui propose une législation sur les droits des malades en fin de vie, et que donc par là même elle relance quand même le débat sur l'euthanasie sous une forme particulière, puisqu'il s'agit d'un texte qui devrait permettre explicitement l'arrêt des traitements médicaux sur demande des patients, même si cet arrêt, je dirais, met sa vie en jeu, et qui doit aussi permettre et mentionner que le médecin qui peut utiliser des produits à visée antalgique, donc contre la douleur, mais qui dans le même temps ces médicaments ayant des effets secondaires peuvent entraîner la mort, aura le droit de le faire. Je dirais le problème que ça véhicule, c'est déjà que dans les médias on parle actuellement d'euthanasie passive. Donc lorsqu'on lit les différentes coupures de presse sur cette loi qui elle s'appelle droit des malades en fin de vie, régulièrement, ce que j'ai pu lire, ce terme d'euthanasie passive, qui est donc reconnu par certains, qui est décrié par d'autres, puisqu'il existe déjà une législation sur les droits des malades en fin de vie. Donc j'ai repris un petit peu la définition d'euthanasie. Sur le plan étymologique, euthanasie revoit à euthanos, qui signifie donc la bonne mort. Si l'on prend la définition du petit Robert, euthanasie signifie une mort douce et sans souffrance. Bon, couramment, pour nous tous, ce terme signifie provoquer ou hâter la mort pour abréger les souffrances. Et on commence en fait à distinguer deux types d'euthanasie, ce qu'on appelle l'euthanasie active, qui suppose le geste d'une tierce personne qui va donner la mort, et donc ce nouveau terme d'euthanasie passive qui est l'arrêt des médicaments sauf les soins palliatifs, donc ce sont les soins à visée antidouleur pour soulager le malade, mais donc cet arrêt des traitements qui va abréger la vie de fait, mais lorsque le cas est désespéré. Donc ce terme d'euthanasie, d'euthanasie passive, il est discuté. Il faut savoir que le code quand même de déontologie médicale est quand même très précis et très clair par rapport aux malades. Donc il y a deux articles qui sont importants, qui sont l'article 38 et l'article 37. L'article 38 prévoit que le médecin doit accompagner le malade jusqu'à ses derniers moments. Il doit s'assurer qu'il reçoit les soins adaptés à son état. Il doit s'assurer de la dignité de son accompagnement dans son chemin, avec une prise en charge également de l'entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, et s'il le fait pour abréger ses souffrances, il est à ce moment-là effectivement passible de condamnation pour des chefs d'inculpation tels que l'empoisonnement ou le meurtre. Ça, c'est l'article 38. Donc c'est le mot, je retiens le mot surtout dignité du malade, parce que le débat il porte à l'heure actuelle là-dessus, sur une mort digne. L'article 37, lui, précise que lorsque tout espoir de guérison disparaît, le médecin doit poursuivre sa mission auprès du malade, auprès de sa famille. Il doit prendre en compte ses besoins corporels, ses besoins physiques, ses besoins psychiques. Il doit prendre en compte son entourage pour l'accompagner et prendre en compte sa souffrance. Il doit éviter de poursuivre tout traitement thérapeutique déraisonnable, toute investigation thérapeutique. Donc, là déjà, le positionnement, je dirais, est assez clair. Et vous avez l'article du Code de santé publique qui précise aussi qu'aucun acte médical, aucun traitement ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Pour essayer de clarifier la situation, la loi Kouchner du 4 mars 2002 a précisé que toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur et que les professionnels de santé doivent mettre en œuvre tous les moyens à disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Voilà, le terme est lâché, c'est une vie digne jusqu'à la mort. C'est une phrase qui est le reflet de préoccupations actuelles au niveau de la société, qui est l'attitude à adopter pour des souffrances jugées intolérables par le patient, présentées telles quelles, des souffrances jugées intolérables par la famille, parce qu'il y a ces deux composantes qui interviennent. Cet état se produisant sur un patient qui est en fin de vie, sur une maladie donc incurable, mais aussi pour tout ce qui est les handicaps majeurs, et donc bien sûr, là je pense évidemment aux tétraplégiques, puisque cette histoire rejaillit un an après l'histoire du fils de Marie Humbert, tétraplégique. Et elle pose aussi le troisième problème de ces patients qui vont rester sous respirateur en réanimation pendant des mois et qui sont inconscients. Donc ça, ce sont effectivement les trois grosses problématiques de fin de vie, entre guillemets, ou de changement de vie. Donc, l'attrait de la proposition « mourir dans la dignité, à l'heure choisie, par le malade, par le moyen choisi, séduit », et relance donc régulièrement ce débat sur l'euthanasie. Il est évident que lorsqu'arrive le problème, c'est-à-dire handicap définitif ou fin de vie, la situation change au sein de la famille et le rôle du médecin est à ce moment-là de poursuivre l'accompagnement du malade donc sur ce parcours, sur cette fin de vie, et aussi de prendre en charge sa famille. Tout change, la situation donc est difficile pour le malade, elle l'est tout autant pour la famille. L'accompagnement va prendre en compte déjà le malade, c'est-à-dire sa demande, ses besoins, prendre du temps pour discuter avec lui, répondre à ses questions s'il le souhaite, respecter son silence s'il le désire, et pourtant poursuivre aussi ce travail. C'est parler librement de ce qu'il vit au temps présent, de ses limites qui arrivent. Et dans le même temps, il va falloir consacrer du temps à la famille pour l'aider dans ce travail de changement d'état, de bouleversement familial. C'est accepter une perte ou une séparation à venir qui déstabilise, qui fait peur, qui entraîne une souffrance importante. C'est un principe aussi sur des fins de vie d'une mort annoncée qui renvoie à une angoisse de mort qui nous touche tous. Donc un principe de réalité. Donc ce sont des sujets qui sont effectivement pas faciles. C'est aussi lorsqu'on a malade, donc quelqu'un qui est gravement malade ou quelqu'un qui est un handicap important, c'est rentrer dans un cercle médical, dans un suivi médical qui est là, qui est pesant, qui intervient dans sa vie. Tout accompagnement va se faire donc soit à domicile, soit sur des unités de soins spécialisées. Et cet état de fait va renvoyer chacun par rapport à sa propre souffrance, par rapport à son histoire et à des événements qu'il a pu déjà vivre dans sa famille, c'est-à-dire des répétitions en chaîne, par exemple, de disparition dans des familles, ce qui à ce moment-là change aussi et majore l'attitude derrière. Donc, le médecin, il se doit de soulager, il se doit de guérir. S'il le peut, il se doit d'accompagner toujours. Donc si toutefois un malade va en être amené à lui parler d'euthanasie, donc demander à ce qu'on le soulage et à ce qu'on l'aide à mourir, je dirais, plus rapidement que prévu. La question se pose parce que est-ce que le médecin est bien la bonne personne qui est amenée de discerner, qui est à même de discerner si une demande d'euthanasie répond bien à un désir réel du patient ? Est-ce que c'est vraiment ce désir au plus profond de lui-même ? Est-ce que cette demande qui va être formulée sur le moment peut être entendue aussi comme un appel à l'aide, masqué, bien évidemment ? Est-ce qu'on peut l'entendre comme aussi une volonté de ne plus être à charge pour la famille, de ne plus être une souffrance, finalement, d'alléger sa famille ? Donc il y a ce premier volet à prendre en compte, c'est donc cette demande de la part du malade, et après il faut prendre en compte aussi la demande de la famille d'euthanasie qui fait écho souvent, parfois, qui est aussi de se demander si cette demande n'est-elle pas l'expression d'une souffrance en fait intolérable pour la famille, mais sans être également une réelle nécessité. Donc, y a-t-il pas en fait une prise en charge ou une discussion à reprendre ? Comment faut-il l'interpréter ? Sommes-nous à même, nous, de faire le discernement au milieu de toute cette problématique ? Il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est lorsqu'on parle de fin de vie, on parle de temps, de durée, on parle d'un terme à vie et on nous demande souvent de prévoir une date, de prévoir une évolution. Mais sommes-nous toujours sûrs d'un point de vue médical à 100% du diagnostic et d'une fin véritable à venir, donc en termes de durée bien définie ? Parce que c'est sans compter à ce moment-là sur le psychisme de l'individu qui peut à tout moment prolonger une situation qui pourtant était apparemment condamnée et éventuellement la renverser, en tout cas la prolonger sur une durée qui peut être de plusieurs mois. Ce qui change, à mon avis, considérablement la donne. Donc, peut-il y avoir raisonnablement une loi qui définissent les limites qui vont autoriser un médecin, à donner la mort à son semblable ? Est-ce possible de légiférer sur ce sujet ? Qu'en est-il du risque de dérapage sur un texte de loi avec les termes fin de vie ? Et si on rentre dans ce système-là, qu'en est-il ensuite dans les années à venir de la confiance médecin-malade, puisque le médecin qui est celui qui accompagne et qui guérit peut devenir celui qui donne la décision de mourir, mais qui quelque part peut la provoquer. Donc toute la problématique, elle est là, et c'est pour ça qu'effectivement c'est un sujet qui reste délicat et que ce terme, à mon avis, d'euthanasie passive qui est en train d'être vulgarisé au niveau médiatique n'est pas du tout anodin. Donc certains crient en disant que c'est insuffisant, d'autres répondent « ouf, on a évité le pire » parce qu'on commence effectivement à faire entrer comme usage courant mais sous le biais d'une loi ce terme d'euthanasie avec toutes les implications que cela entraîne derrière. Donc, j'ai pensé demander au docteur Cheyras, de par une expérience dans le domaine gynécologique, des avortements thérapeutiques, des avortements thérapeutiques répondent à une loi qui est ancienne, qui est légiférée, de peut-être de réfléchir avec nous sur le risque de dérapage, puisqu'en fait, la problématique, elle est là, et de voir un petit peu les éléments que l'on dispose déjà dans ce domaine, mais dans le milieu à ce moment-là, plus spécifique de la gynécologie.